Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, j'ai l'honneur de présenter cette première session de travail. C'est effectivement un honneur que l'organisation me fait compte tenu de la qualité des intervenants que vous allez pouvoir écouter. Je vais les présenter ou leur donner l'occasion de se présenter dans quelques instants. Je voudrais simplement avoir quelques mots de cadrage, d'introduction, vu de ma fenêtre. Sur ce thème qui est donc du normal au pathologique. Alors du normal au pathologique, ça m'inspire les réflexions suivantes. Tout d'abord, j'ai l'impression qu'on est d'emblée dans le vif du sujet, qu'on ne tourne pas autour du pot. Notamment, on est aussi dans la continuité du colloque de l'an dernier, me semble-t-il, qui avait tenté de repérer, de positionner un certain nombre de pathologies comme les troubles des conduites alimentaires, les états dépressifs et anxieux, les problèmes de transition de carrière ou des difficultés de cette nature, les addictions bien sûr. Alors du normal au pathologique, c'est aussi l'occasion de questionner non pas la dichotomie normale-pathologique, ce qui serait probablement désuet et brutal si on pense à tout ce que d'illustres anciens nous ont apporté, Freud, Canguilhem et compagnie, mais c'est interroger non pas la dichotomie mais la continuité, c'est-à-dire les marges, les limites, les processus de passage, les seuils, tous ces écarts, toutes ces accentuations qui lient dans la continuité, dans l'homogénéité peut-être ces deux états. Et à ce moment-là, l'analyse devient tout à fait passionnante et tout à fait praticable. Alors que dire de façon très générale avant les intervenants sur ces voies de passage ? Bon, on peut penser que le sport intensif notamment, cristallise un certain nombre de pathologies qu'on pourrait qualifier d'induites ou de réactionnelles, induites ou réactionnelles par rapport à justement à la soumission à des normes excessives, à des normes trop pesantes. Et il est paradoxal de constater que c'est en faisant peser des normes très lourdes que le sport intensif entend susciter le dépassement. Il y a là quelque chose de paradoxal, probablement, qui sera peut-être évoqué. Une autre voie de réflexion par rapport à normes et pathologies, c'est de penser les choses en termes de changement d'état. Je pense à cette belle formule, je crois, de David Le Breton. La performance, c'est lorsque le corps devient incandescent ou le corps passe à l'incandescence. Donc qu'est-ce qu'il en est d'un éventuel changement d'état dans la situation de haute performance ? Mais on peut aussi penser à l'athlète et à son vécu. Alors peut-être ce qu'on appelle pathologie, c'est peut-être de l'hyperadaptation, c'est peut-être l'expression optimale de potentialité interne, c'est peut-être l'adaptation à un cadre, ou l'adaptation à une adaptation réussie pour positiver les choses, adaptation à des situations qui sont complètement artificielles, voire artefactuelles, aussi bien dans l'institution que dans la situation de compétition. Et puis pour finir, de façon très, très positive, j'aurais tendance à dire qu'on peut aussi s'interroger sur le fait que l'athlète soit le producteur de nouvelles normes. C'est-à-dire que ce soit quelqu'un qui peut-être interroge la légitimité de nos normes, de nos conceptions communes, de nos usages. C'est quelqu'un qui invente de nouvelles modalités d'adaptation fonctionnelle. C'est quelqu'un qui fait de l'innovation positive du vivant. Et peut-être aussi les choses peuvent se regarder sous cet angle. Et si c'était le cas à ce moment-là, eh bien notre attention à ces comportements entre guillemets pathologiques pourrait être une attention subjective et une attention qui ne se décentre pas, qui ne sait pas s'orienter sur le lendemain ou sur la création. Mais tout ça, ce sont des pistes de réflexion que je voulais proposer en introduction. Et pour finir, avant de donner la parole aux intervenants, Je voudrais vous livrer une phrase de Jacques Birouste que j'aime beaucoup parce qu'elle est pleine de sens. Jacques Birouste, c'est un psychanalyste l'un des rares psychanalystes qui s'est intéressé au sport de haut niveau. Et Birouste dit « Le sportif est un sujet des franges, c'est un tacticien praticien de la limite, il mène une vie ébouriffante ». Et je vous propose, messieurs, que cette phrase soit le préambule à vos interventions. Et donc, je vais vous donner tout de suite la parole. J'ai le grand plaisir de vous présenter le professeur François Dubet, de vous présenter le professeur Marc Oriacombe et de vous présenter le professeur André Roche. Je vous donne la parole.
Merci. Merci beaucoup. Dans tout congrès qui se respecte, on invite quelqu'un qui n'y connaît rien, donc c'est moi, parce que je suis le local de l'ETAP. Et je me suis effectivement demandé si les notions de normal et de pathologique avaient un sens dans cette affaire-là. Et j'ai plutôt conclu que non, quand on y réfléchit. Ce qu'on observe, les drames, les accidents, les pépins, les névroses, les suicides, etc. Au fond, c'est le résultat d'un fonctionnement assez normal du système sportif. Et je crois que si on considère que c'est un fonctionnement assez normal, ça va nous conduire peut-être à désacraliser le sport, à le laïciser, à le considérer comme une conduite un peu moins ébouriffante que ce que vous en avez dit. Alors je vais essayer d'expliquer un peu ce raisonnement. D'abord, je crois qu'il serait absurde de dire que ces problèmes-là sont pathologiques, dans la mesure, au fond, où le sport mobilise des normes sociales extraordinairement valorisées et n'est pas une scène à part. Je veux dire que l'idée qu'il faut souffrir pour être beau, qu'il faut souffrir pour réussir, qu'il faut souffrir pour grandir, bon, ça se dit généralement dans les écoles maternelles et pas uniquement sur les stades. L'idée qu'il faut mourir pour la patrie, défendre son camp, etc., c'est pas non plus des normes franchement marginales. L'idée qu'il faut se contrôler, se maîtriser, être maître et souverain de soi-même en toutes circonstances, c'est aussi des normes de la modernité. L'idée qu'il faut sans cesse se mesurer sur des épreuves les plus objectives possibles pour savoir ce que l'on vaut, ce ne sont pas des singularités du monde sportif. En même temps, je crois que mon raisonnement est le suivant, c'est parce que le sport mobilise des normes et des principes de justice tellement essentiels dans notre société qu'il est une dramaturgie centrale et que donc ce qu'on y observe n'est pas véritablement pathologique, il n'est pas plus pathologique que l'accident de voiture dès lors qu'on fait une course. C'est normal, enfin je veux dire que si on ne veut pas d'accident de voiture, il ne faut pas faire de voiture, il va faire de course de voiture. Donc, et on voit bien d'ailleurs que moi je ne pense pas du tout qu'on puisse interpréter tout ça en termes d'aliénation, c'est un thème qui a un peu disparu mais qui a été très à la mode, et on doit quand même, si l'on fait l'hypothèse que nos concitoyens sont des gens plutôt normaux et rationnels, on doit bien voir quand même que la scène sportive se déroule en continu. Je veux dire, on sort des championnats d'Europe de foot et des championnats nationaux, on est dans Roland-Garros, on va quitter Roland-Garros pour le championnat d'Europe de foot, on va quitter le championnat d'Europe de foot pour le Tour de France, on va quitter le Tour de France pour les Jeux Olympiques, et quand les Jeux Olympiques sont finis, on recommence. Et ceux qui ont une chaîne câblée peuvent voir en plus le basket américain, etc., etc. Donc ça n'arrête pas, et si ça n'arrête pas, c'est bien parce que ça mobilise quelque chose d'extrêmement profond. Alors, je crois que ce qui fait la force de cet engagement, évidemment du sportif, mais contrairement à ce qu'on peut penser, pas seulement du sportif professionnel de haut niveau. Les sportifs du dimanche sont aussi stupides que les grands sportifs. Je veux dire, ils se tapent, ils se blessent, ils se font mal. Et les autres qui les regardent dans leur canapé en enfilant des bières ne se font pas de bien non plus. Donc, c'est pas qu'une affaire d'élite de ce point de vue-là. Il y a vraiment un système du sport. Et je crois que ce système, tire sa force du fait qu'il met en scène, que c'est une dramaturgie qui se rejoue sans cesse, les principes de justice auxquels nous croyons le plus fortement. Je veux dire que dans les sociétés démocratiques, nous vivons en étant suspendus à une affirmation à laquelle on est tous tenus de croire, c'est que nous sommes libres et égaux. Bon. Et dès lors que nous partons de l'idée que nous sommes tous libres et égaux, il est bien évident qu'il faut que nous nous hiérarchisions, non pas en fonction du hasard et de notre naissance, mais en fonction de notre mérite. Et au fond, le drame, Weber aurait dit la guerre des dieux, le drame sous lequel nous vivons, c'est de dire à tous, vous êtes libres, vous êtes égaux, les positions sociales sont inégales, il faut donc que des compétitions méritocratiques créent des inégalités justes. Voilà ce qu'on pense tous. Tous nous sommes libres, tous nous sommes égaux, et nous sommes égaux parce que nous sommes libres. Et comme les positions sociales, elles, ne sont pas égales, il faut qu'une compétition équitable nous répartisse inégalement. Alors ne croyez pas que c'est une fable. C'est ce qu'on dit dès le CP aux gamins. Si tu veux occuper une position, il faut que tu travailles, tu réussisses. Tu veux séduire, tu n'as qu'à faire de la gym pour être mince et beau. Tu fais des affaires, tu vas rentrer dans une compétition équitable avec les autres. Je veux dire, c'est comme ça que nous vivons. Et c'est plutôt mieux d'ailleurs qu'un monde aristocratique dans lequel, au fond, on se bornait à hériter de la position dont on avait, que vos parents vous avaient donnée, où on avait le seul mérite de naître. Donc, je crois que, je vous dis ça parce que j'ai fait une grosse enquête il y a quelques années sur les sentiments d'injustice au travail, et les sentiments d'injustice que l'on éprouve dans la vie sont toujours mobilisés autour de ces trois principes. On porte atteinte à mon égalité, on m'empêche d'exprimer mon mérite, et on porte atteinte à ma liberté. Et c'est ce qui rend le monde injuste. Et le monde social réel, lui, il est à la fois attaché à ses principes, et en même temps, ces principes s'y incarnent de manière très imparfaite. Il y a une critique du monde social continue. En réalité, on n'est pas égaux. L'école, par exemple, traite tous les enfants comme étant égaux, mais on sait bien que certains sont plus égaux que d'autres. On sait bien que dans la vie réelle, les épreuves du mérite ne sont pas véritablement reconnues. Ma chance de prendre un PV dépend moins de ma conduite que de la position des radars. Il suffit qu'il y ait des radars pour qu'il y ait des PV. Les examens que nous faisons passer sont parfaitement purs, mais bon, la docimologie, qui consiste à donner des notes, la science qui analyse la manière dont on note les copies, montre que la part du hasard y est beaucoup plus grande que dans l'arbitrage d'un match de tennis où on mesure au millimètre près l'endroit où va tomber la balle. Donc, le monde dans lequel on vit est dans une critique et une frustration permanente parce que nous sommes libres, égaux et méritants, mais dans la réalité, le mérite, ça ne marche pas. Puis en plus, on n'est pas sûr que ça existe, le mérite. On y croit comme à une fiction. Je veux dire, pour prendre la formule célèbre d'un philosophe américain, on est bien d'accord sur le fait que le soldat courageux mérite une médaille, mais on n'est pas certain qu'il mérite son courage. Est-ce que j'ai beaucoup plus de mérite à aimer faire la sieste que des mathématiques? Au fond, j'en sais rien. Mais je suis obligé de considérer que c'est mieux de faire des maths. Mais donc, tout ça n'est pas dans la vie sociale, tout ça n'est pas simple. Et puis, est-ce qu'on est vraiment libre? Bon, il y a ici suffisamment de psychologues pour nous expliquer qu'on n'est pas libre, à part le psychologue qui, évidemment, quand il dit que l'autre ne l'est pas, s'attribue une liberté, enfin, etc. Mais, bon, grosso modo, on peut avoir les plus grands doutes sur cette affaire-là. Donc, dans la vie sociale, ces principes sont parfaitement impurs. Qu'est-ce qui fait que le sport est extraordinaire et marche tant? C'est que le sport met en scène une confrontation de ces principes de justice dans une sorte de théâtre extraordinaire, et je fais partie de ceux qui, malgré leurs vieilles jambes, jouent sur cette scène tous les dimanches avec leurs copains, et la regardent à la télé, et ne s'en lassent pas. Pourquoi ? Parce que le sport va créer une hiérarchie indiscutable à partir de gens fondamentalement égaux. Quand les compétiteurs entrent sur le terrain, il y a un postulat que tout le monde partage, c'est qu'ils sont égaux. Et il y a un postulat que tout le monde partage, c'est que on va annuler le social. Carquefou est égal à Marseille quand ils entrent sur le terrain. Et d'ailleurs, ils ont battu Marseille. Donc ça prouve bien qu'ils sont égaux. Mon fils, qui est 50e, est égal à Ferrer. D'ailleurs, il a battu Ferrer. Il ne battra pas Federer, bon, mais il a battu Ferrer. Donc, on a là-dessus, on a au fond une sorte de théâtre qui dit, dès que l'épreuve commence, nous sommes égaux. Et on a une obsession croissante, d'ailleurs, sur l'équité de l'arbitrage. Je suis très frappé par ça. Quand j'étais enfant, je me souviens, il y avait des types qui chronométraient l'arrivée du 100 mètres en appuyant sur un chronomètre. Maintenant, ça se fait au millième. Je veux dire, au rugby, on n'accorde plus un essai sans qu'il y ait 15 caméras mobilisées pour savoir si une main s'est glissée sous le ballon. Donc, on fait tout ce qu'on peut. D'autre part, alors donc cette épreuve est parfaitement juste dans l'épreuve. Alors nous qui sommes des esprits fins, nous savons qu'avant, ce n'est pas si clair. Mais il n'empêche que quand ça se joue, c'est clair. Et d'ailleurs, on ne regarde le match, on ne le joue que parce qu'on pense que c'est juste. Évidemment, dans une affaire comme ça, la hiérarchie qui se dessine n'est pas contestable. Et les individus qui gagnent sont fatalement des super individus, des super héros. Pourquoi c'est des stars? Pourquoi c'est des individus? Parce que c'est les seuls qui peuvent dire ce qu'on peut jamais vraiment dire dans la vie. Je ne dois ma victoire qu'à moi-même. Je ne dois mon échec qu'à moi-même. Ou qu'à mon équipe, ça dépend. Mais en tout cas, il y a l'idée que ça ne se conteste pas. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'en général, ça ne se conteste pas. Ça ne se conteste pas. Et quand ça ne marche pas, le système est très très bien fait dans le sport, quand ça ne marche pas, c'est la faute aux dieux. Et on ne peut jamais s'en prendre au dieu. Le dieu, on l'a tous connu en France, c'est que les poteaux de foot étaient carrés. Ce qui a empêché, c'est qu'il pleuvait tellement en Afrique du Sud que le grand Benazi n'a pas pu glisser suffisamment, je ne me rappelle pas, qu'on a raté la Coupe du Monde à 2 cm. Mais c'est les dieux, on n'y peut rien. Et les dieux, d'ailleurs, interviennent. Dieu aimait beaucoup Anquetil. Et le peuple, lui, aimait Poulidor. Bon, parce qu'on peut à ce moment-là avoir des sentiments, mais qui ne mettent pas en cause cette affaire-là. Et au fond, c'est très intéressant de comparer le sport, d'analyser le sport comme une dramaturgie, parce que d'abord, le commentaire sportif fait partie du sport. Il y a, au fond, on n'imagine pas le sport sans l'équipe, on n'imagine pas le sport sans le bistrot qui accompagne, etc. Et le commentaire sportif est très intéressant parce que le match est toujours le même, sauf qu'on ne sait pas la fin. Alors que quand vous regardez les séries télévisées, les films et que vous lisez des romans, l'histoire n'est jamais la même, mais vous connaissez toujours la fin. Vous savez toujours qu'à la fin, le héros embrassera l'héroïne. Voilà. Tandis que dans le match, vous savez toujours ce qui va se passer, que ça va durer 80 minutes, ou 90, qu'il va y avoir, etc. Sauf que vous ne savez pas comment ça va se terminer. Donc, au fond, on pourrait montrer que le sport, c'est quelque chose qui va cristalliser, au fond, des valeurs et des principes essentiels. Et puis, le sport a un grand charme là-dessus, c'est que, comme c'est très brutal, cette idée « vous êtes égaux, affrontez-vous, et que le meilleur gagne », d'ailleurs, vous savez que les Aztèques avaient un truc très simple, ils tuaient c'était le vainqueur qu'ils tuaient d'ailleurs, parce qu'il avait l'honneur de souffrir. Bon. Donc nous, on est plus sympa, on a des rites de consolation. Par exemple, quand un étudiant a collé un examen, personne ne le console. Personne. Quand un type a fait un échec économique, personne ne le console. Dans le sport, il y a un rite auquel personne ne croit, mais que tout le monde accomplit, qui est qu'on dit au vaincu, t'as pas eu de chance, etc. Le vainqueur dit pas, je l'ai eu ce con, c'est bien fait pour sa gueule. Jamais. Jamais. Il pense éventuellement, mais il dit pas. Et d'ailleurs, le rugby, là-dessus, évidemment, le plus incroyable des trucs, ils se battent comme des bohémiens, et à la fin, ils s'applaudissent amicalement. Enfin, c'est pas idiot. Enfin, je veux dire, ça prouve que c'est vraiment du théâtre. Il y a aussi un énorme avantage du sport, c'est que tous les dimanches, on redistribue. C'est-à-dire qu'on rejoue sans cesse les épreuves. Et donc, le sport incarne une sorte de monde pure de justice qui fait que ma défaite n'est jamais définitive. J'ai toujours l'espoir de remettre ça. Alors que dans la vie réelle, quand vous avez été collé à un examen, c'est une tâche au casier judiciaire. Dans la vie réelle, les épreuves de justice ont une mémoire. Dans la vie sportive, elles n'ont pas de mémoire. On recommence. Bon. Et donc, on peut chaque fois rejouer. Et il y a quelque chose en plus de très très bien et qui est formidable dans cette affaire, c'est que plus on joue, au fond, plus on égalise les chances. C'est pour ça que je crois qu'il faudrait qu'on ait une vraie métaphysique sur la formule championnat-coupe. Le championnat a quelque chose d'encore un peu aristocratique qui neutralise la violence de l'épreuve, puisqu'on joue dans des niveaux comparables. Et que quand on perd, on continue à jouer. Évidemment, la cruauté démocratique absolue, c'est la coupe. On est tous égaux, mais chaque fois qu'on perd, on est mort. Et ça va très très vite. Vous faites entrer 128 types dans un tournoi de tennis, au bout de 7 matchs, il y en a un survivant, tout le monde a perdu. C'est vachement bien. Enfin, je veux dire, c'est une image d'une justice radicale et darwinienne, mais avec des mécanismes de consolation. Donc, moi, je crois que si on considère que le sport, c'est pas simplement une affaire d'abrutis, pour dire les choses simplement. Non, mais je dis ça parce que, vous savez, les sociologues ont longtemps pensé que c'était une affaire d'abrutis. Les intellectuels ont longtemps pensé qu'il n'y avait rien de plus ridicule que de voir 22 garçons en culotte courte se courir après une balle. Bon, c'est pas une affaire d'abrutis parce qu'il y a une dramaturgie morale qui, à mon avis, est extrêmement forte. Et d'ailleurs, aujourd'hui, cette dramaturgie morale est si forte qu'elle se déplace du sport vers la société. Actuellement, je rencontre des gens qui font du coaching, par exemple. On rencontre des gens qui ont un rapport aux études, qui ont un rapport d'entraînement. Le culte du corps n'est plus qu'une affaire de sport. Les affaires de harcèlement, il y en a dans le monde, il y en a dans les vestiaires du harcèlement, il y en a dans les camps d'entraînement. Mais il n'y a pas que dans les camps d'entraînement qu'il y a du harcèlement, qu'il y a cette espèce de logique de pression. Donc, au fond, le sport incarne ce à quoi nous croyons véritablement. Et donc, quand le sport n'est pas à la hauteur de ses attentes, nous sommes à son égard d'une extrême cruauté. Je veux dire, moi, je suis très frappé de voir que un rugbyman qui a été pris avec deux joints un samedi soir frôle le grand pédophile dans l'échelle des crimes. Bon, parce que c'est un salaud, parce qu'il nous empêche de croire à cette histoire qui se rejoue tous les dimanches. Donc il y a une sorte d'attente excessive. Mais si on souffre dans le sport, et de toute évidence, le sport, ça fait mal quand on en juge par le programme, c'est pour d'excellentes raisons qu'on souffre dans le sport. Et les raisons pour lesquelles on souffre dans le sport ne me paraissent pas véritablement différentes des raisons pour lesquelles on souffre dans le reste de la société. Sauf que dans le sport, il y a une sorte d'épuration dramatique, dramaturgique, de ce qui est au fond une expérience assez banale. On est plus juste, on est plus égaux, on est plus un individu qu'ailleurs, mais pas dans une rupture. Le sport est véritablement dans la continuité des valeurs de notre société. Je crois donc que, au fond, ce qui ferait souffrir les gens dans le sport, c'est quand ils auraient une suridentification héroïque au principe du sport. C'est-à-dire qu'on est tellement un individu, qu'on est tellement égaux, qu'au fond, on ne supporte pas. Mais est-ce que c'est vraiment différent dans l'addiction au travail? Est-ce que c'est vraiment différent dans l'expérience banale des ruptures amoureuses? Après tout, ça déprime aussi beaucoup. On existe un peu moins quand l'autre vous aime moins, quand même. Enfin, je ne sais pas comment ça vous arrive à vous, mais moi, c'est comme ça. Si l'autre me trouve même plus, eh bien, je me sens moins intelligent, moins beau, moins brillant, et je deviens effectivement, en réalité d'ailleurs, plus moche, plus gros, etc. Bon. Donc, je veux dire que le sport dans un monde où, au fond, on n'a plus d'incarnation véritablement religieuse des principes moraux, j'ai l'impression que le sport fonctionne là-dessus. Et comme je suis plutôt porté sur les sentiments anti-religieux, je crois que nous gagnerions beaucoup à laïciser le sport, à ne pas le considérer comme une messe, à le considérer comme une activité normale, à le désenchanter, à le désacraliser, et à dire, puisqu'il s'agit au fond d'une sorte de dramaturgie comme ça, au lieu de la vivre et de l'interpréter sur le mode héroïque de l'engagement total, du sacrifice absolu et de la pureté extrême, considérons-la comme une pratique sociale plus triviale, plus banale, et qui suppose effectivement que la question du dopage soit traitée comme une question médicale et pas comme une question criminelle, qui suppose que les règles d'arbitrage soient traitées comme une affaire pratique et pas comme une affaire métaphysique. Je crois qu'on gagnerait, peut-être dans le monde sportif, mais aussi dans le monde social, à avoir un rapport, comment dirais-je, plus désenchanté, plus pragmatique et moins sacralisé aux pratiques sportives, plutôt que, au fond, d'être totalement fasciné par cette espèce de mise en scène de nos propres principes moraux qui se rejouent tous les samedis, tous les dimanches, comme si on jouait chaque fois notre peau dans cette affaire. Je crois qu'il faut bien comprendre que les passions qui se nouent autour du sport ne sont pas que des passions nationales, ne sont pas que des passions narcissiques, ne sont pas que des passions mauvaises. Je crois qu'il y a dans le sport une sorte de mise en tension pure, incandescente, des principes de justice. Voilà. C'est les principes de justice qui s'affrontent. Et le sport, c'est ce truc incroyable qui permet de dire des individus égaux vont se hiérarchiser en fonction de leur pur mérite et de leur pure liberté. Et ça, il n'y a que dans le sport qu'on le fabrique de manière très artificielle. Et ce n'est pas étonnant que ça rende un peu fou dès lors qu'on y croit trop. Voilà ce que je voulais vous dire en 20 minutes.
Merci François Dubé de nous avoir rappelé un certain nombre de ressorts fondamentaux, à la fois sociaux et, m'a-t-il semblé, anthropologiques, qui expliquent la position forte, la position dominante du sport dans notre spectre social actuellement. Merci aussi de l'avoir fait de façon truculente et avec beaucoup d'exemples, ce qui montre que finalement vous vous y intéressez un peu plus que ce que vous n'avez dit tout à fait au début de votre intervention. Cet atelier, comme les autres, cette session, elle est conçue de façon pluridisciplinaire, avec des éclairages qui essaient de converger, de se confronter. Donc maintenant, nous avons un éclairage médical et psychiatrique et psychologique du professeur Marc Auriacombe, qui est professeur des universités et praticien hospitalier sur ce site de Bordeaux 2. Et dont je crois, les préoccupations principales se situent au niveau des conduites addictives, mais je n'en suis pas sûr. Je vous en prie.
Tout à fait, merci. Alors effectivement, moi, on m'a demandé... D'abord, je suis très heureux de participer à ces deuxièmes journées, très sensible à intervenir après M. Dubé, qui s'est présenté comme le local de l'étape, ce qui fait que nous sommes deux locaux. Et la question qu'on m'a demandé d'examiner, c'est celle donc, qui est le thème de cette session, du normal et du pathologique. Et alors, en tant que travaillant dans le champ de la santé et en tant que professionnel de santé, la question du normal et du pathologique est une question qu'on ne peut pas éviter, hein, puisqu'elle est à la base, enfin, elle est absolument fondamentale par rapport à la pratique médicale au sens large, donc qui n'est pas que limitée aux médecins, puisque le normal interdit l'intervention des professionnels de santé, hein, puisque le normal doit être préservé dans sa diversité. Alors que le pathologique est notre champ d'intervention Et le métier d'un professionnel de santé, c'est de repérer justement dans l'ensemble de la diversité du normal la particularité du pathologique et de sauter dessus pour lui faire du bien. Alors, dans le champ dont on parle là aujourd'hui, qui est le sport intensif et d'une particularité qu'il y aura, et qui était très frappant aux premières journées, hein, et ma communication s'appuie, et je crois que beaucoup des gens présents aujourd'hui étaient aux premières journées, s'appuient sur les travaux présentés aux premières journées qui montraient tous les problèmes qu'il y avait. Et ça, c'est pour faire un peu écho au titre de la communication de Monsieur Dubé. Et je crois que c'est toute la difficulté et la source de malentendus qui peut-être il y a dans ce champ. En effet, on est dans une situation complexe, qui est une situation subtile. Je ne pense pas qu'elle soit très compliquée. Mais la subtilité vient qu'on est dans des interactions entre domaines indépendants. Donc, il faut simplifier, et j'ai 20 minutes, donc je simplifie. Et donc, forcément, je vais dire des choses fausses, hein, du fait de la simplification. Et donc, ça, c'est pour appeler à votre indulgence. Mais j'espère qu'elles sont moins fausses que d'autres points de vue. Alors, de quoi s'agit-il ? Ben, on a effectivement trois niveaux qui viennent en interaction. Il y a la question des addictions. Et donc, je vais en parler puisque c'est mon domaine de compétence. Il y a la question aussi des dommages intrinsèques à une activité, hein, des effets toxiques, on pourrait dire. Mais en prenant ce mot qui. Je veux dire, comme disait M. Dubé tout à l'heure, ben, si on fait une course d'auto, il va y avoir des accidents d'auto. C'est intrinsèque, c'est pas pathologique de ce point de vue-là. C'est quelque chose que l'on peut prédire. Voilà, si je cours, je suis plus susceptible de glisser et tomber que si je reste sans bouger. Donc, il y a ce problème qui se pose. Et puis, il y a la question donc, qui vient ici aussi, de façon très particulière, mais qui n'est peut-être pas spécifique, qui est la question des objectifs, des normes, des risques et de la motivation, hein, qui amènent les individus à faire ce qu'ils font. Hein, et chaque fois qu'on mène une action, on prend un risque. Mais cette action, elle a un sens par rapport à une norme. Alors, de quoi parle-t-on et quelques précisions sur ce qu'est l'addictologie. Alors, l'addictologie, donc, d'un certain côté, c'est une discipline émergente. D'un autre côté, c'est quelque chose qui existe déjà chez Galien et Hippocrate. Donc, il n'y a rien de nouveau. Par contre, il y a beaucoup de malentendus. Et un des malentendus, c'est que beaucoup de personnes pensent que les addictions, ça a un lien avec les substances. En fait, ça n'a rien à voir avec les substances. Hein, et la division entre addiction avec substance, addiction sans substance, est un malentendu. L'addictologie, en fait, c'est la discipline qui s'occupe des maladies du système de régulation des comportements renforcés ou des comportements gratifiants. C'est-à-dire, on a un système qui nous permet de gérer les comportements gratifiants. C'est-à-dire, pour parler en français normal, les choses qui donnent du plaisir. Sauf que le plaisir, c'est un truc très compliqué qui peut apporter à des malentendus. Donc, quand même, mes objectifs est d'essayer de clarifier les choses. Voilà. Et tout le monde a l'expérience qu'on peut faire, on peut avoir du plaisir à faire quelque chose sans nécessairement qu'il y ait consommation de substances. Quoique fréquemment, il y a aussi consommation de substances, mais pas toujours. Un exemple, on peut avoir plaisir à travailler. Il y a des consommations au travail, mais on peut avoir plaisir à travailler, nonobstant les consommations. Alors, dans les dysfonctionnements possibles de ce système, il y a deux types de dysfonctionnements. Il y a un dysfonctionnement temporaire, qui est ce qui correspond à ce qu'on appelle l'abus ou l'usage nocif, et qui, lui, donc, peut faire l'objet d'interventions ponctuelles. Et puis, il y a un dysfonctionnement stabilisé qui correspond à ce qu'on appelle la dépendance ou addiction. Hein, aujourd'hui, dépendance et addiction, c'est synonyme. Ça n'a pas toujours été synonyme. Donc, c'est juste pour attirer votre attention que parfois, dépendance, ça veut dire quelque chose qui n'est pas l'addiction et qui n'a rien à voir. Hein, sauf que, comme c'est le même mot, c'est souvent dans le débat public et parfois entre professionnels, source de malentendus. Mais quand le dysfonctionnement est stabilisé, ben là, il va nécessiter, il va du coup avoir un certain nombre de conséquences et il implique, lui, une intervention qui, elle, va avoir une certaine longueur, hein, elle-même une certaine stabilité. Alors, une petite précision, puisque tout le monde n'est pas professionnel de santé ici, quand on dit maladie, dans la perspective médicale, ça a un certain nombre d'implications. Hein. Une maladie, et un certain nombre de croyances, hein, de présupposés qui sont établis. Une maladie, c'est quelque chose qui entraîne un handicap. Donc ça, c'est pour mettre de côté la question des malades bien portants, hein, qui est un autre sujet. Hein. Donc une maladie, ça entraîne un handicap, un dommage, un problème. Et une maladie, ça a son propre génie. C'est-à-dire une maladie, elle s'autonomise de ses éléments originels, de ces éléments déclencheurs. Hein. Alors ça, c'est aussi un élément extrêmement important. Et une maladie, dans une perspective médicale, elle n'a de sens que par rapport à un traitement. Hein, d'un point de vue médical, une maladie sans traitement est un non-sens, puisque le repérage sert à quoi ? Hein, il pose à ce moment-là des problèmes psychologiques, sociaux, autres, mais qui échappent au monde médical, donc les maladies... Voilà les présupposés hein, qui est important d'avoir en tête. Alors, par rapport aux addictions, il y a deux subtilités qu'il ne faut pas oublier. C'est que les effets toxiques, les dommages liés à la pratique des comportements gratifiants, ils sont indépendants de l'existence d'une addiction. Alors, je prends l'exemple de l'alcool. Il n'est pas nécessaire pour être ivre d'être dépendant de l'alcool. Et il n'est pas nécessaire pour mourir alors qu'on est ivre ou pour tuer quelqu'un alors que l'on est ivre d'être dépendant. Hein, donc les dommages liés à l'usage des choses gratifiantes ne nécessitent pas d'être dépendant. Je peux faire une course automobile, je prends le risque d'avoir un accident. Si je cours, je prends le risque de me blesser. Sans nécessairement avoir une pratique sportive abusive, anormale. Voilà, alors ça, c'est un élément très important. Et si on prend l'ensemble des objets d'addiction ou des sources d'addiction, eh bien, les maladies du poumon, donc, qui sont liées à toutes les substances qu'on consomme par voie pulmonaire, les maladies cardiovasculaires, qui sont quasiment toutes les substances et beaucoup d'addictions sans substances, les maladies de l'appareil digestif, les maladies mentales, autres que l'addiction, et l'addiction elle-même peut être une conséquence de la simple pratique. Une autre subtilité, source de confusion, c'est par rapport aux déterminants de l'usage, aux déterminants des pratiques. Alors ça, c'est une question qui se pose à deux niveaux, pour deux raisons. L'une pour la compréhension, l'autre pour la prévention. Et là, il faut absolument distinguer la situation où il n'y a pas addiction. Quand il n'y a pas addiction, le déterminant des pratiques, il est essentiellement collectif, social et individuel, psychologique. Hein, on le voit très bien pour le sport, on le voit très bien pour les autres pratiques, et on le voit au cours de l'histoire, les déterminants des pratiques évoluent, hein, ils sont déterminés collectivement. Mais on n'est pas... Alors, est-on totalement le produit de la collectivité ? Bon, comme on ne fait pas tous exactement tous pareils, il y a bien donc aussi des éléments individuels. Par contre, quand il y a maladie addictive, c'est la maladie addictive qui, elle, devient le déterminant. Hein? Les déterminants collectifs et les déterminants individuels n'interviennent plus. Alors, ça va être un élément du repérage de la personne qui a une addiction, c'est qu'elle va être en décalage avec son contexte, avait été en décalage avec le collectif. Et ses tentatives d'adaptation vont être inopérantes. Hein. Elle va être aussi en décalage par rapport à elle-même. Alors, qu'est-ce qui peut donner lieu à dépendance ? Ben, en fait, tel qu'on comprend les choses aujourd'hui, donc ça, je vous dis, c'est la façon dont on comprend les choses aujourd'hui, c'est un peu différent d'avant, et demain, ça sera différent. Hein. Donc, c'est valable, là, pendant le temps de l'exposé. Déjà, des nouvelles données font que, d'ici ce soir, les concepts vont évoluer. Je dis, le grand changement, il a eu lieu au cours des 20 dernières années. Je pense que là, on a une relative stabilité pour les 40 ans qui viennent. Mais comme vous ne serez pas tous morts dans 40 ans, restez vigilants pour le prochain grand changement conceptuel dans le champ des addictions. Donc actuellement, tout ce qui est bon peut donner lieu à addiction, avec la difficulté, il y a ce qui peut être bon en soi, il y a des choses où... Enfin, et puis il y a aussi la valorisation, la norme fait que on va apprécier les choses. Donc on peut apprécier quelque chose par l'effet en soi, c'est le cas des substances, mais aussi par tel que c'est valorisé socialement. Donc ça va être une source de confusion, et ben, c'est le cas du sport. On peut, le sport a, peut donner un plaisir personnel, un agrément personnel à l'individu. Tout le monde n'a pas le même agrément pour les mêmes activités sportives. Et puis il y a une valorisation du sport. Actuellement, bon... On verra au cours de l'histoire, etc. Et par rapport au sujet d'aujourd'hui, aussi du sujet de la dernière fois, et dans la confusion dans le sport, mais là où on peut s'élargir en dehors du sport, il y a la question de l'élitisme, hein, la question auquel M. Dubé faisait allusion, la question pour se distinguer, pour accéder à des choses qui sont limitées à un certain nombre d'happy few, là, qui nécessitent de s'engager, de devenir... monothématique, hein, de se concentrer sur une activité, de ne faire plus que ça et d'avoir un certain nombre d'inconvénients intrinsèques. Hein. On prenait l'exemple des études, y a des parallèles à faire sur le comportement des personnes qui préparent les concours, les grandes écoles, hein, avec les mêmes risques d'exposition aux substances, etc., les mêmes dommages éventuels quand ça ne marche pas, ou les mêmes problèmes de post-carrière, des gens qui ont des carrières intellectuelles extrêmement valorisées, puis tout à coup, il y a un problème de reconversion avec la retraite à 65 ans à l'université. Heureusement, enfin, pas toujours, il y aurait des choses extrêmement intéressantes à regarder de ce côté-là. Alors, dans les quelques instants qui me restent, je voudrais juste passer sur comment ça se passe. Donc de la même façon qu'on peut faire du sport sans être dépendant du sport, qu'on peut boire de l'alcool sans être dépendant de l'alcool, qu'on peut consommer de la cocaïne sans être dépendant de la cocaïne, qu'on peut aller au casino de Bordeaux sans être dépendant du jeu, il y a bien, du point de vue médical addictologique, une situation normale. C'est-à-dire, quand il n'y a pas addiction, c'est normal. Mais il y a d'autres points de vue par rapport à la norme. Hein, c'est par rapport... Et puis, pathologique, c'est quand il y a addiction. Alors, tout le monde ne s'expose pas, hein, à l'ensemble des gens, tout le monde ne s'expose pas, mais avant la première pratique ou le premier usage d'une chose gratifiante, eh bien, vous avez des gens qui ne vont pas persévérer au-delà de la première expérience. Voilà. Alors, il y a des gens qui cherchent à faire du sport un peu, qui courent, bon, alors, tout le monde est exposé à l'école, puis il y en a qui bon, se limitent vraiment à la contrainte imposée par l'école, et puis dès qu'ils peuvent ne plus en faire, n'en font plus. L'exemple du tabac, la majorité d'entre vous qui avez consommé du tabac une fois, en fait, vous n'avez pas persévéré. Pareil pour la majorité d'entre vous qui avez consommé du cannabis. Vous avez consommé une fois ou deux, vous n'avez pas persévéré au-delà du jour même de la consommation ou des premières semaines. Et puis, il y a d'autres situations où l'individu va s'engager dans une répétition de cette première expérience sans qu'au niveau individuel, ça pose problème. Par exemple, pour l'alcool, la majorité d'entre vous, après avoir consommé une première fois, en fait, vous avez répété. Sans qu'au niveau individuel, ça pose problème. Même si, au niveau collectif, c'est un autre sujet, c'est une cause de problème important, puisque juste 30 secondes de réflexion, dans la tranche d'âge qui n'est pas encore relative, donc assez diversifiée dans ce groupe, mais relativement jeune, si vous réfléchissez aux personnes actuellement de votre tranche d'âge décédées, la première cause transversale à nous, ce sont les accidents, puisqu'on n'est pas assez vieux pour que ce soit les maladies, et la première cause des accidents, c'est l'alcool. Donc, s'il y a une prise de risque à réduire, c'est d'arrêter de boire à partir d'aujourd'hui. Sauf qu'au niveau individuel, comme l'expérience est que ça ne pose pas de problème, on le continue. Alors, dans un deuxième temps, vous avez des individus qui s'arrêtent. C'est une tentative d'action de prévention. Dans un deuxième temps, vous avez des individus qui vont s'arrêter. Ça, c'est les arrêts qui surviennent après quelques mois, quelques années. Et puis, vous avez des individus qui vont continuer, finalement, mourir d'une cause autre que la pratique de ce comportement. Pour l'alcool, ça va être votre cas. Nous allons tous mourir un jour, moi aussi. Et d'une cause autre de l'alcool, bien qu'on va probablement continuer à consommer de l'alcool de façon prolongée. Dans la situation normale, dans la pratique normale, en fait, il y a deux déterminants fondamentaux de la pratique, de l'usage. C'est le contexte, et donc ça, c'est des questions de normes, hein, le contexte et les expériences personnelles. Alors, et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Hein, au contraire, c'est plein de risques. Hein, c'est plein de risques. Après, parmi les gens dont l'usage au niveau individuel ne posait pas de problème, dont la pratique au niveau individuel ne posait pas de problème, vous avez des individus dont l'usage, la pratique se transforme, elle devient automatique, systématique, compulsive. Actuellement, on considère que c'est ça déjà l'expression de l'addiction. Dans l'addiction, le système de régulation qui permet alors à la fois d'intervenir volontairement, c'est-à-dire je peux décider de faire une chose gratifiante en plus ou en moins. Mais même si je n'y pense pas, ça se régule automatiquement. Hein? Par exemple, là, nous sommes dans un contexte qui n'est pas favorable à l'usage de la plupart des substances. Hein? On ne peut même plus consommer de tabac. Moi, je me souviens d'une époque, et bien que je ne sois pas très âgé, où, au contraire, être dans un amphi comme ça était un incitateur à la consommation de tabac. Hein, on allumait sa cigarette au début du cours, on l'éteignait à la fin du cours. Hein, les pauses étaient faites pour pouvoir souffler un petit peu. Maintenant, c'est l'inverse. Hein, les gens éteignent avant de rentrer en cours et rallument en sortant de cours. Ça, c'est un phénomène social. Bon. Donc, dans l'addiction, le contexte n'est plus un déterminant de l'usage et les expériences personnelles ne permettent plus de moduler. Et de là, il va y avoir un élément fondamental. Alors qu'en dehors de l'addiction, les dommages sont toujours éphémères, c'est-à-dire soit il vous tue, mais c'est éphémère, donc on peut mourir sans être dépendant, soit le dommage même vous aide à réguler. Alors, si le dommage est lui-même un élément de valorisation, non. Hein. Donc, chez la personne dépendante, ce qui est sûr, il va y avoir accumulation des dommages, puisque la personne ne peut pas réguler. C'est ce qui fait bon, ce paradoxe que, et c'est un élément pour repérer hein, en population générale, seules les personnes dépendantes se posent la question de l'arrêt. Hein, c'est une question que les non-dépendantes ne se posent pas. Ils s'arrêtent, ils s'interrompent, ils reprennent. Ils se posent pas de question, ils agissent. Le sujet dépendant se pose la question, engage des stratégies pour arrêter et se confronte au fait qu'il ne peut pas s'arrêter par définition et il rechute. Hein. La rechute n'est pas un échec de la tentative d'arrêt dans l'addiction. Il est l'expression du fait que la personne qui a l'addiction ne peut pas s'arrêter. Comme ça, par les systèmes naturels. Donc, la dépendance, c'est la persistance involontaire de l'usage. Donc, il faut absolument différencier de l'usage ou de la pratique sans dépendance, qui, elle, est basée sur l'intérêt et le plaisir, et la valorisation individuelle, mais aussi par la valorisation du groupe. Et puis, dans la situation de dépendance, où la persistance de l'usage, de la pratique, est contrainte à l'individu. Hein, sauf que la norme peut apporter de la contrainte, et là c'est une contrainte intrinsèque. Hein. Donc, une source de confusion possible, c'est que tout dommage lié à une pratique n'implique pas qu'il y ait addiction, qu'il y ait dépendance. Et si on veut atteindre un certain niveau de concours intellectuels ou de performances sportives, il faut accepter un certain nombre de dommages. Hein, c'est toute la question de la. Du coup, enfin, il est donc intrinsèquement non surprenant qu'on trouve des pratiques abusives, puisqu'il va y avoir à un moment donné la motivation nécessite qu'il faut cracher. Alors que faire? Du point de vue de l'addictologue, il faut absolument différencier la situation avec addiction, sans addiction. S'il n'y a pas addiction, que faire? Éviter. Bon, alors, sauf que pour éviter les dommages du sport, ne pas faire de sport, si on veut vraiment être sûr d'éviter les dommages du sport, il ne faut pas en faire. Sauf que si c'est pas. Mais sauf que bon, ça ne résout pas. C'est la même question, comment éviter les dommages liés aux pratiques médicales? C'est réduire les pratiques médicales, sauf que ça pose aussi d'autres problèmes. Donc après, c'est pratiquer suivant les règles. Et là, on retombe mon prédécesseur et mon suiveur. C'est-à-dire, c'est quoi ces règles? Elles ne vont pas être les mêmes pour tout le monde, elles ne vont pas être les mêmes par rapport aux traditions, quel groupe de référence, la morale, quelle morale, la loi, quelle loi. Donc les règles, Et puis par contre, il faut, s'il y a addiction, ça veut dire que le sujet, nonobstant tous ces éléments déterminants de l'usage, est contraint donc est contraint au dommage, et ça, il faut absolument le repérer. Il faut le repérer pour une intervention thérapeutique, de sortir de cette situation en sachant que, donc c'est traiter, soigner, et en sachant que nous avons des outils thérapeutiques efficaces, pour les addictions en général. Alors, pour terminer, un autre petit mot sur une source de confusion qu'il y a dans le sport, qu'il y a aussi dans d'autres métiers. Par exemple, on est très sollicité par des métiers, entre guillemets, de l'extrême. Comme les pompiers. Vous avez des métiers, et le sport de haut niveau en est un aussi, où il faut avoir un certain, vu de l'extérieur, un certain courage, une certaine prise de risque, une certaine folie, enfin, faut pas avoir peur d'y aller. Or, cette expression comportementale, qui va être un avantage, elle est aussi associé, alors pourquoi ça, j'en sais rien, peu importe, un élément de vulnérabilité pour les addictions en général. Donc, du coup, d'un point de vue théorique, il n'est pas surprenant que chez les personnes qui ont des qualités sportives que l'on repère, nonobstant qu'ils sont dans des situations de stress, etc., où donc l'accès aux substances peut être une source pour gérer le stress, je dirais, comme monsieur et madame tout le monde, mais en plus, on a peut-être là un groupe qu'on a sélectionné qui a plus de vulnérabilité vis-à-vis de ce risque. Pareil pour les pompiers, je veux dire, pour aller au feu, faut soldats du feu, faut pas avoir froid aux yeux. Et les systèmes de santé des médecins, des pompiers s'aperçoivent, en plus on les met dans des casernes à rien faire en attendant, et tiens, ils découvrent, tiens, ils consomment. Et pareil, le pompier, normalement, c'est quelqu'un de formidable, c'est... le pompier, des choses comme... ils sont pris dans une difficulté. Donc, au total, pour terminer, on a ces trois niveaux. Le niveau de l'addiction, de la dépendance, qui, elle, va forcément entraîner des dommages en soi, mais qui s'explique que par la dépendance, qui ne s'explique pas. Le niveau des effets toxiques collatéraux à une pratique, qui peut donner l'illusion de dépendance, mais qui... n'implique pas qu'il y a dépendance, et puis le niveau de la référence. Et puis, le fait que les facteurs de risque pour l'addiction sont aussi les facteurs qui favorisent, la formulation peut-être abusive ou provocante, qui favorisent une forte motivation dans des situations difficiles. Voilà. Je vous remercie.
Merci d'avoir repositionné avec beaucoup de précision sur ces données qui sont souvent sur lesquelles on a des représentations implicites et peu précises. Le dernier intervenant de cette session, c'est celui que je connais le plus personnellement, puisque nous sommes acteurs STAPS, et en l'occurrence, le professeur André Roche a été un acteur institutionnel important de l'intégration universitaire des STAPS. Il est professeur à l'université Marc Bloch à Strasbourg. Il est aux confins de l'histoire et de l'anthropologie. Ses thématiques sont l'histoire de l'éducation du corps, l'histoire des loisirs, l'histoire de l'identité masculine, plus récemment. Et quelques références sont connues, notamment en STAPS, mais pas seulement, sur la boxe, violence du XXe siècle, sur les vacances et les loisirs en France, et plus récemment sur le genre et l'identité masculine. L'intervention d'André, faire du sport dans les normes.
Voilà, merci Marc. Alors, les deux orateurs précédents se sont présentés comme le local, et là maintenant vous allez avoir affaire à la délocalisation. Et puis en plus c'était extrêmement brillant, enfin, je trouve que ce qu'a dit François Dubay sur la question du désenchantement qui reprend un problème posé par Marcel Gouchet mais auquel il donne une valeur laïque, de même que ce qu'a dit Marc Auriacombe sur la dépendance et l'addiction, font que mon intervention c'est pas de la tarte. Alors je voudrais entrer dans le sujet différemment de ce que eux ont fait, en me posant le problème, pas forcément du sport, du moins pas tout de suite, mais de l'importance qu'a pris aujourd'hui ou compris aujourd'hui nos intérêts, nos obsessions sur les styles de vie, la façon dont nous vivons au quotidien, et qui fait que les soins de santé se situent davantage du côté de la prévoyance, donc il faut prévoir le coup, comme on dit, du contrôle régulier, des équilibres, et puis du respect d'un certain nombre de styles de vie, comme par exemple boire modérément, mais en même temps apprécier le vin de Bordeaux, comme le fait de ne pas fumer, mais en même temps garder une sociabilité qui est celle que procure précisément la fumée, et dont Marc Auriacombe vous a donné tout à l'heure avec beaucoup d'humour un sens. Je me suis souvenu à cette occasion que dans les années 68, interdire à un étudiant de fumer sa cigarette, c'était véritablement s'en prendre à sa liberté. Et de ce point de vue, c'est vrai que les sportifs nous proposent, ils sont pas communs, comme l'a peut-être expliqué François Dubay tout à l'heure, du moins pas pour moi, ils nous proposent vraiment des modèles, et des modèles incontournables. Autrement dit, quand, je crois que c'était Lagache, nous disait que la santé, c'est la vie dans le silence des organes, ou un peu plus... Vous vous rendez compte ? Est-ce que quelqu'un parmi vous pense que le bonheur, c'est le silence des organes ? Alors, de même, lorsque un peu plus tard, Georges Canguilhem nous dit, bah, vous savez, la santé, c'est pas le contraire de la maladie. Bon, d'accord, alors qu'est-ce que c'est ? Bah, la santé, c'est la possibilité de tomber malade et de s'en remettre. Mais alors, franchement, la plupart d'entre nous, d'abord, la maladie, c'est un petit accident comme ça. Bon, parfois, ça tourne mal, d'accord, mais c'est un accident. Et c'est de toute façon jamais quelque chose dont nous rêvons. Autrement dit, de ce point de vue, ne pas être sportif, c'est vraiment une tare. C'est un type anormal. Quelqu'un qui ne pense pas à un moment donné, ou qui, au moins dans le discours, quand il va parler aux gens, ne leur dit pas « je fais un petit peu de foot ». Mais on ne passera pas les vacances avec lui. C'est invivable. Donc de ce point de vue, ce que je voudrais simplement dire en introduction, c'est que, perçu par moi-même, il y a là une norme, une contrainte. Tout à l'heure, François Dubay nous disait, je crois qu'il a fait un topo sur le bonheur. Eh bien, je ne suis pas sûr que le bonheur, ça soit comme ça à portée de main. Et en ce sens, ces modèles qui sont présents sur les écrans, qui sont présents dans nos discours, qui petit à petit génèrent un certain nombre de rituels pratiquement inépuisables. C'est vrai que le boxeur qui gagne, lorsqu'on l'interviewe à la radio ou un peu moins à la télé, parce qu'en général, ils sont un peu amochés, donc à la radio, il va dire « oui, mais il était excellent », etc. Il ne va jamais dire « écoutez, c'était vraiment une chèvre, il n'y avait rien à en faire ». Parce que, précisément, en disant il était excellent, ça veut dire je suis encore bien meilleur. Donc il y a quelque chose ici qui nous expose constamment, non seulement à rester au point zéro, éventuellement au point numéro un, mais qui nous expose à devoir, d'un jour à l'autre, d'une semaine à la suivante, d'une année après l'autre, valoriser, revaloriser, remettre en quelque sorte en jeu notre normalité, notre santé. Donc voilà ce que je voudrais traiter très, très rapidement maintenant. Tout d'abord, je crois que cette norme, elle introduit pour nous un autre rapport à soi. Un autre rapport à soi qui fait que le plaisir que procure le fait de progresser, le plaisir que procure le fait de ne pas être toujours le même, et vous savez que chez les anciens, le bonheur, c'était le moment où on était immobile. Il n'y avait pas besoin de courir après quoi que ce soit d'autre. On est immobile, c'est le bonheur parfait. D'ailleurs, nos représentations du paradis sont peut-être un peu comme ça. Autrement dit, dans un premier temps, ce à quoi je voudrais vous rendre attentif, c'est au fait qu'il y a là une idéologie qui nous dynamise dans l'existence. Et qui nous dynamise dans l'existence en faisant que nous avons quelque chose à réaliser. Nous percevons comme ayant une mission d'être en bonne santé. D'ailleurs, chez les Canadiens, le fait de ne pas prendre soin de sa santé, c'est une erreur. C'est une faute. C'est véritablement une culpabilité. La preuve, c'est qu'ensuite, c'est toute la collectivité qui va devoir payer les soins. Deuxième idée... et celle-ci, je la dois à Isabelle Queval dans son livre « S'accomplir ou se dépasser ». La deuxième idée, c'est que chez les Grecs, par exemple, bon, qui connaissent l'olympisme, comme vous savez, l'athlète, il ne peut pas faire plus que ce qui est en puissance en lui. Autrement dit, l'athlète, il va réaliser sa nature, ce qu'il est lui-même. Aujourd'hui, il n'y a plus personne parmi nous qui pense que c'en est ainsi. Nous pensons que l'ensemble de l'humanité va de façon complètement indéfinie poursuivre ses progrès, c'est-à-dire que toutes les performances seront toujours battues, que jamais une performance ne sera inégalée, et a fortiori que les tableaux que nous établissons vont constamment évoluer. Donc, de ce point de vue, il y a une sorte de croyance dans le progrès, de croyance dans le fait que c'est non pas infini, mais indéfini. Je ne sais pas où ça va, hein, qui est propre à la pratique sportive d'aujourd'hui et qui fait que nous nous installons dans cette idée-là. Et elle est favorisée par le fait que nous pouvons le mesurer. Autrement dit, le corps du sportif, et notre corps à nous aussi, il est ici pris par un ensemble de systèmes de mesures. Et puis tout à l'heure, vous disiez des mesures vraiment très fines, quoi. Il y aura je ne sais pas combien de caméras, on va vous enregistrer le nombre de pulsations cardiaques, vous allez compter, etc. Bon. Vigarello le montre bien dans l'article qu'il fait dans l'ouvrage collectif « Histoire du corps », lorsqu'il il dit, lui, ce sont des corps qui sont machinés. Donc il y a ici une technicisation de l'organisme. La troisième idée sur laquelle je voudrais m'arrêter, c'est que lorsque quelqu'un se met à s'entraîner, il a cette idée que la performance, le record qu'il va battre, il ne faut pas que ce soit un jour comme ça, par hasard, boum. Il a cette idée qu'il doit travailler sa santé, c'est-à-dire qu'il doit travailler sa forme, c'est-à-dire qu'il doit s'entraîner de telle sorte que ce ne soit pas aléatoire, que ça se reproduise. Et de ce point de vue, lorsque on lui parle de sa santé, il ne pense pas, évidemment, à la maladie, nous l'avons déjà dit, il ne pense pas non plus au fait de « est-ce que je suis bien ou pas bien ?» Il pense « qu'est-ce que je peux en faire ?» Autrement dit, il y a ici une conception, utilitaire, à quoi ça sert ? Les philosophes diraient « à quoi bon ?» Parce que très franchement, tous les dimanches rejouer, hein, vous le disiez tout à l'heure, ça n'a pas de sens. Si, ça a un sens. Ça a ce sens que ça répond à cette question, en quelque sorte morale, à quoi bon être en bonne santé ? À quoi bon ? Le sportif, il vous dit, parce que dimanche prochain, je vais gagner. Hein ? La troisième, de ce point de vue, il y a quelque chose qui est de l'ordre, non plus de l'organique, non plus du social, mais qui est de l'intériorisation de la norme. Elle est dans moi. Je pense que l'étape suivante, c'est cette idée qui vraisemblablement fait que la pratique sportive est une pratique qui aujourd'hui a en quelque sorte une assise sociale, à savoir que avoir une bonne santé, autrement dit être en forme, autrement dit être dans la perspective du record, ça constitue un capital. Quelqu'un qui est en bonne santé, c'est quelqu'un qui peut tout entreprendre. Et cette ouverture de l'horizon, cette conception économique et financière de ce que l'on va faire de sa santé, fait que effectivement la norme économique est présente dans notre esprit lorsque nous pratiquons le sport. La différence entre le champion qui est à la télé et moi, c'est pas seulement que lui, il gesticule sur mon écran, puis que moi, je suis Pénardos en train de le regarder. La différence entre lui et moi, c'est que son capital, il est immédiatement utilisé, alors que le mien, il reste potentiellement ouvert. Je pourrais faire d'autres choses que de battre des records avec ça. Ce qui, évidemment, accroît encore l'angoisse dont parle Marcel Gauchet. Le point sur lequel je voudrais à présent encore m'arrêter, c'est celui du rapport à soi dans la sensation que j'ai de moi. C'est vrai que l'angoisse est aujourd'hui perçue à la fois par les psychiatres, les psychanalystes, les psychologues, comme quelque chose qui est très très présent dans notre environnement social. Mais en même temps, à côté de cela, ou plutôt si nous l'apercevons comme un handicap, c'est parce que nous avons une représentation, un imaginaire de ce que peut être le fait d'être bien dans sa peau. Le sportif illustre, je crois, d'une certaine manière, l'homme qui est bien dans sa peau, c'est-à-dire quelqu'un qui se sent dans son assiette, quelqu'un qui, à un moment donné, est disponible pour lui-même et éventuellement disponible pour la compétition qu'il s'est donnée. Cela fait partie de ce que on pourrait appeler une sorte de passion sport, sans laquelle quelqu'un est véritablement aujourd'hui hors norme, c'est-à-dire un peu demeuré. Reste à évoquer la place de cette norme. Elle n'est pas vraiment dans le rapport avec le travail, elle est dans le rapport avec le loisir. C'est-à-dire que dans l'ensemble des loisirs, il y a des loisirs que nous percevons comme étant des loisirs utiles, et puis d'autres qui sont du divertissement. Et je crois que ça, c'est une caractéristique relativement propre à la France, que les États-Unis n'ont peut-être pas vécu de cette façon, en tout cas à la fin du 19e et au début du 20e siècle, à savoir qu'il y a deux types de loisirs. Il y a le loisir pendant lequel on s'instruit, vous pensez à Joffre Dumasdier, et puis il y a le loisir du divertissement, c'est-à-dire Disneyland et ceux qu'ils fréquentent. Pour les Américains, cette différenciation et surtout cette hiérarchisation, elle ne m'a pas semblé aussi présente. Il se trouve que pour nous, un loisir, il doit avoir une fonction de progrès de soi, éventuellement, pour Joffre Dumasdier, c'était durant le loisir que quelqu'un pouvait rattraper le handicap de la scolarisation, du départ précoce pour le travail. Or, précisément, la pratique sportive normalise, donne à notre loisir, alors norme au sens d'une direction. Une direction qui va aujourd'hui dans deux sens, soit dans le sens de la compétition, donc faire mieux d'un jour à l'autre, soit dans le sens que nous avons appelé l'aventure, autrement dit, cette espèce de plongée dans les éléments, que ce soit dans l'eau, que ce soit l'air, comme tout le monde sait, l'air c'est bon pour la tête, et pas seulement pour les poumons, ou que ce soit dans le rapport avec la terre, puisque de ce point de vue, les randonneurs qui sont dans la salle savent le plaisir qu'on peut y prendre. Alors par rapport à ça, la question qui se pose, c'est mais si ces comportements sont, entre guillemets, normaux, comment se fait-il que la pratique sportive, à certains moments, nous la percevions comme facteur alors, d'addictologie ou de dépendance ou éventuellement de pathologie? Ben, il faudrait tout d'abord remarquer que dans les universités ou dans les lycées, un sportif, ça se reconnaît tout de suite, il a des béquilles. Il a toujours une blessure. On est sûr que ça, c'est de la sportive. Donc, de ce point de vue, effectivement, la pratique sportive a généré, a engendré un certain nombre de traumatologies, une certaine traumatologie qui, auparavant, n'existait pas. C'est vrai que si je ne sais pas conduire de voiture ou si j'étais obligé de vendre la mienne parce qu'il fallait payer autre chose, je ne risque pas d'avoir d'accident de la route, sauf quand je traverse hors des passages piétonniers. Deuxième question, il faut noter que si on prend comme référence la fréquence et la durée des arrêts de travail, si c'est ça un indice de santé relativement fiable, on observera que les populations sportives avant l'âge de 35 ans sont celles qui ont le plus recours à l'arrêt de travail pour des raisons de traumatologie. Et que ce sont les sportifs de haut niveau qui, ici, sont les plus servis. En revanche, après 35 ans, incontestablement, les anciens sportifs ou ceux qui continuent à pratiquer un sport ou un autre sont favorisés par rapport à une population qui ne le serait pas. Je voudrais observer en même temps aussi que la pratique sportive, si elle constitue à un moment donné une dépendance, eh bien, le moment où le sujet sort de cette pratique, bien sûr, constitue, cela a été dit, un traumatisme avec le deuil que cela représente. Et en ce sens, il est atteint à plusieurs niveaux. Il est atteint dans la représentation qu'il a de lui-même, il est atteint dans sa sociabilité, et il est atteint parce qu'à un moment donné, l'avenir s'ouvre à nouveau devant lui. Autrement dit, il faut ici y entrer. Et on aura pu observer très rapidement que ces anciens sportifs de haut niveau, lorsque, après un temps donné, ils reviennent à des pratiques qui ne sont pas des pratiques de compétition, ils portent constamment en eux ce désir de rester jeune, ce qu'on appelle le jeunisme. C'est-à-dire que s'ils font du ski ou s'ils font du jogging, l'idée qu'ils le fassent simplement pour le plaisir, quelque chose qui est extrêmement difficile à intégrer, et d'autant plus difficile à intégrer qu'ils sont toujours dans l'extravagant, dans ce qui, à un moment donné, crève l'ordinaire. Parce que la pratique sportive, c'est précisément le refus de l'ordinaire. C'est le refus qu'il y ait du répétitif, que les choses se stagnent dans la répétition, c'est-à-dire dans la comédie. Je terminerai par un dernier point. Il me semble que la pratique sportive dont tout à l'heure on a dit, je crois que c'était Marc qui l'évoquait, Marc Lévesque bien sûr, qui l'évoquait, la pratique sportive se fait sur un terrain standardisé. Donc d'une certaine manière, il est à la fois naturel, il faut que le gazon soit vert, mais enfin vous savez très bien que ces gazons verts, ils ont été quand même pas mal traités pour pousser, pour avoir telle ou telle consistance et éventuellement telle ou telle couleur. Bon, donc le sportif vit à la fois dans son rapport avec la nature et puis en même temps dans un monde qui est véritablement totalement construit. Lorsqu'il se met à jogger, lorsque pour porter la santé de la nation, le président se met à jogger devant les télévisions pendant une période de campagne électorale, donc il y a dans cette représentation à la fois une idée de la nation saine. Hein, souvenez-vous du président américain qui, pendant la guerre du Vietnam, jouait au golf le dimanche et il voulait pas qu'il soit interrompu. Pour les Français, ça sera davantage le jogging. Donc il y a cette idée fondamentale, à savoir que l'environnement n'existe pratiquement pas. Donc il va jogger éventuellement, quelqu'un peut jogger éventuellement sur un bord de route sans savoir que les pots d'échappement, ça existe. De même, ce rapport avec la nature qu'est la nage, le fait d'aller sur une plage et puis de nager, c'est ne pas tenir compte qu'il y a quand même beaucoup de plages qui sont polluées, etc. Autrement dit, il y a ici une sorte d'aveuglement à ce qu'est l'environnement qui a été vraisemblablement conditionné par cette représentation de soi, à savoir moi au cœur du monde. Je voudrais conclure ici D'abord, ça, tenir compte du slogan, faire du sport, c'est bon pour la santé. Mais un slogan porte une part de vérité, une part de bon sens. Et cette part de bon sens, c'est ce qui a été évoqué précédemment, à savoir que celui qui n'en fait pas ne prend pas soin de soi. Et cela marque non seulement une négligence, non seulement une absence de responsabilité, mais véritablement une culpabilité. Il ne prend pas soin de soi, mais il va coûter cher à la sécu ensuite. Deuxième aspect de ceci, ces normes, elles ne sont pas seulement des représentations, elles sont aussi des intériorisations, c'est-à-dire que nous les partageons en ce sens qu'elles sont quelque chose que nous vivons sans avoir besoin même d'y penser, de les penser, d'y réfléchir, et c'est peut-être aujourd'hui que nous le faisons. Et puis enfin, dernière remarque, finalement, le fait que le sportif soit dans les normes, ça veut dire pas simplement que tout est bon et qu'il n'y a pas de contradiction. Ça veut dire que précisément dans ces normes qui lui sont édictées et que lui-même a intériorisées, il y a toutes les contradictions qu'il vit et par rapport auxquelles précisément s'organise au quotidien cette préoccupation qui est le soin de soi et qui n'est pas seulement un soin de l'apparence.
Dans ce que tu as dit, j'ai entendu pour ma part beaucoup de résonances qui pourraient s'articuler avec des investigations plus psychologiques, intériorisation, rapport à soi, et and so on. Nous avons une dizaine de minutes pour l'échange, c'est ça ? Donc je vous propose de poser des questions, d'intervenir et d'échanger avec chacun de nos trois conférenciers pendant une dizaine de minutes. Je vous en prie, je ne sais pas si un micro fonctionne en salle.
La hiérarchie des normes dans le domaine du sport se heurte quelquefois aux normes de la République. On le voit dans le droit interne, on le voit dans le droit communautaire, on le voit à l'échelon international. Ces aspects de normes dans ce domaine, vous ne les avez pas évoqués. Est-ce que quelqu'un éventuellement pourrait m'éclairer sur cette question? Ça, c'est un premier point, sur la hiérarchie des normes. Et le deuxième point, une des caractéristiques du sport, c'est son caractère universel. Il est pratiqué sur tous les continents, dans des cultures éventuellement différentes. J'imagine qu'il doit se heurter à des normes culturelles, sociales, très différentes. Et néanmoins, on joue tous à peu près de la même manière au foot, au rugby ou autre chose. Est-ce que cette question également, vous pourriez éventuellement, les uns ou les autres, l'aborder ?
Alors, sur le caractère universel, moi je crois qu'il y a des styles nationaux. Il y a des styles nationaux. Bon, chacun le sait, c'est une trivialité. Il y a des sports nationaux, des sortes de drames nationaux. Ce qui est quand même extrêmement fascinant, c'est qu'à mon avis, c'est toujours le même, la même tragédie culturelle qui se joue dans le sport. Et elle est extrêmement sommaire. C'est on est égaux et à la fin, il y a un vainqueur. Bon. Et alors ça, c'est un modèle, effectivement, c'est la modernité, je veux dire, c'est la modernité qui est comme ça. On peut imaginer que pendant très longtemps, les épreuves sur lesquelles les gens se jouaient étaient plutôt des épreuves d'honneur, par exemple. Et les épreuves d'honneur, c'est pour ça qu'il y a une rupture entre le sport britannique tel que l'ont inventé les Anglais, comme disait Elias, une manière civilisée de faire la guerre, etc. C'est terminé, le sport est devenu quelque chose d'extraordinairement démocratique de ce point de vue-là, parce qu'il suppose la fiction de l'égalité de base dès le départ. Et moi, je crois que c'est pour ça que c'est très difficile. Je suis d'accord avec ce que dit André, mais en même temps, on est tous côté sportif. On considère quand même que celui qui dirait... c'est plus moralement acceptable de dire « mais je m'en fous, je joue pas, etc. etc. » Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, on a plutôt un déplacement de la scène sportive vers des espaces qui n'étaient pas. Bon, je crois que c'est plutôt ça la grande affaire. Et c'est pour ça que je crois qu'on aurait intérêt à désacraliser, à calmer le jeu, à arrêter de s'exciter et arrêter en particulier. Je pense que d'avoir des jugements moraux, me semble-t-il, sur les pratiques déviantes dans le sport, je préférerais qu'on ait des jugements techniques, médicaux, parce que dire il est mal de grimper le Tourmalet à plus de 30 km de moyenne en prenant des pilules, mais il est normal de le grimper à 30 km en n'en prenant pas, c'est quand même une injonction loufoque. Parce qu'il n'est pas normal de monter le Tourmalet à 30 km à l'heure, me semble-t-il, enfin pour ce que j'ai cru d'observer, et surtout que tous les ans, il le monte plus vite que l'année précédente. Bon, donc il y a un truc. Bon. Donc je crois que là-dessus, on pourrait désacraliser et faire entrer dans un système de droit du travail, de monde normal, quoi. Parce qu'autrement, ça rend fou, quoi.
Oui. Voilà. Entièrement d'accord, François. Je voudrais, pour ma part, souligner peut-être des choses qui vont vous paraître un peu conservatrices, à savoir que cet universel va faire passer à la trappe des quantités de patrimoine, des patrimoines culturels, locaux, du passé, et sans aucun souci. C'est-à-dire que la norme de cette universalité, de cet universalisme, je crois qu'on l'appelle aujourd'hui globalisation aussi, est tellement forte que toutes les différences et surtout des caractéristiques qui se sont inscrites dans l'histoire de tel ou tel peuple, de telle ou telle population, elles vont disparaître. Sauf si, évidemment, les historiens, et là, ce serait pas mal que les historiens du sport soient aussi historiens des Jeux, les conservent, les muséifient, si j'ose dire, pour en garder le souvenir. Et du coup aussi, ce qui me paraît intéressant à étudier, et ça vient d'être souligné, c'est vrai qu'il y a une manière française de jouer au rugby. Bon, mais admettons les uns et les autres que c'est une typification qui, d'une certaine manière, est une construction d'aujourd'hui et non pas quelque chose qui nous vient des Gaulois ou qui nous entraîne à travers le Moyen-Âge féodal. Donc, ce seraient mes deux remarques. Elles sont une toute petite réserve. Ça ne signifie pas pour autant que cet universalisme ne porte pas en lui quelque chose qui est, je crois... pour nous, une valeur essentielle, celle de la liberté, celle de l'égalité et, comme ça vient d'être dit, celle de la laïcisation de ces pratiques.
Merci André. C'est plutôt au deuxième volet de votre questionnement que des réponses ont été apportées. C'est peut-être un peu difficile sur le premier. D'autres questions, s'il vous plaît ?
En fait, je suis psychologue dans un CREPS et donc je dois réaliser les bilans psychologiques des sportifs. Et ma question tout à l'heure, vous avez parlé que quelqu'un qui est dépendant, il pratique sous la contrainte. Donc je voudrais savoir si justement cette notion de contrainte, ça peut être un signe pour repérer une addiction chez un sportif. Mais j'entends addiction au sport, pas addiction à une substance. Parce que c'est vrai que ça arrive pouvoir repérer dans le discours des sportifs qui c'est plus une motivation intrinsèque, c'est vraiment quelque chose qui est... Donc voilà, je voulais savoir, au niveau des signes, en fait, symptomatologiques de l'addiction au sport.
Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'effectivement, dans l'addiction, l'élément spécifique, c'est le fait que le sujet est contraint et la perception par le sujet que ça s'impose à lui de faire ce qu'il fait. C'est pareil pour les substances. Dans l'approche traditionnelle, on dit vous consommez combien de verres ? Ben, comme tout le monde. Alors, si on l'appliquait là pour le sport, ben, vous faites combien d'heures de sport ? Alors, on comprend que celui qui est contraint, il va être parmi ceux qui font le plus. Mais si on est dans une situation d'entraînement, ben, tout le monde fait beaucoup. Donc, c'est plus... C'est plus un bon repérage. La bonne question, voilà, est-ce qu'il vous arrive de faire plus que vous ne voudriez ? Voilà, est-ce qu'il vous arrive de consommer plus que vous ne voudriez ? Et ça, souvent, nonobstant l'ambivalence que les personnes peuvent avoir par rapport à d'emblée la question, voilà, est-ce que vous pensez que vous avez une addiction ? Est-ce que vous pensez que vous êtes dépendant ? Et là, beaucoup de gens qui le sont vont dire non. Alors, à cause de la représentation qu'ils ont de ce qu'est l'addiction, peut-être une faiblesse morale et ils se défendent moralement. Par contre, voilà, est-ce qu'il vous arrive parfois de faire plus que vous ne voudriez. Voilà, est-ce que vous, voilà, dans l'entraînement, est-ce qu'il vous arrive parfois de faire plus que vous ne voudriez, plus que ce qui est demandé? Il me semble que c'est une bonne question pour repérer une personne qui serait susceptible d'avoir une addiction au sport.
Peut-être prendre encore deux questions.
Oui, moi j'ai juste un commentaire et une question. Le premier commentaire, c'est par rapport à la joie que peut apporter le sport en tant que facteur de, je dirais, d'équité quand un spectateur ou un téléspectateur peut regarder ce sport. On s'aperçoit que même dans le cas où il n'y a pas équité, comme il y a souvent maintenant dans le sport de moins en moins d'équité, puisque le pouvoir de l'argent prend le pouvoir sur le sport, et ça intéresse quand même les personnes d'aller à ce spectacle. Donc c'est... Pour moi, c'est la comparaison est pas simple. Et par contre, j'ai une question, c'est sur l'addiction. Moi, la question que je me pose, c'est les parallèles entre l'addiction aux substances et l'addiction au sport. L'addiction aux substances, bon, on se connaît, on connaît les mécanismes neurobiologiques, il y a une récompense immédiate. Au sport, il n'y a pas forcément de récompense immédiate, et souvent, la personne qui fait du sport, elle souffre d'abord. Donc, comment fait-elle pour prendre le dessus sur cette souffrance? Être ensuite, avoir un état d'addiction qui n'est pas forcément en plus qu'il y a une récompense immédiate, mais une récompense beaucoup plus lointaine.
Merci pour ces questions qui frappent droit dans le mille. Oui.
Merci.
Mais en fait, c'est-à-dire que, alors non, dans les éléments de réponse, c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins d'addiction au comportement sans substance qu'au comportement avec substance. C'est vrai qu'on parle de l'addiction au sport, l'addiction au jeu, l'addiction à Internet. C'est peut-être aussi un phénomène social. On parle d'autant plus collectivement d'un phénomène qu'il est rare. Hein, alors, par exemple, l'addiction à Internet, c'est quelque chose qui explose, parce que Internet explose, c'était pas disponible, donc tant que c'était, ça pouvait pas exister. Donc il y en a beaucoup plus qu'avant. Mais si vous rapportez à tous les gens qui utilisent Internet et qui jouent sur Internet, c'est non significatif, sans intérêt. C'est pas une raison. Alors, au niveau santé publique, c'est pas une raison de ne pas s'en occuper pour les individus à qui ça arrive et qui eux souffrent, doivent être repérés, aidés et pris en charge. Et on a les outils pour faire ça. Hein. Donc l'élément, donc c'est vrai que la gratification, quand il n'y a pas de substance, la gratification des comportements est beaucoup plus aléatoire. Un exemple, le sexe. Ça ne marche pas à tous les coups. Non, enfin, j'espère que je ne dis rien de choquant. Voilà, et pourtant, normalement, on dit, là, on a le doigt, la main, tout ce qu'on veut, en plein, là où il faut. Voilà. Donc, parce que les autres sources de plaisir, et je parle, le contexte, les sens, il faut arriver directement. Les substances, ce qui fait que quand on dans un comportement, on utilise des substances, ces substances gratifiantes, c'est qu'elles, elles viennent directement faire le renforcement, nonobstant du contexte. Hein, même entouré de cons, l'alcool, c'est bon. Hein, vous êtes dans une situation sociale, vous vous embêtez, vous consommez de l'alcool, ça marche à tous les coups. Vous êtes avec des amis, ça marche aussi. Mais, voilà. Donc, votre remarque, c'est effectivement, c'est ce qui fait qu'on est beaucoup, beaucoup plus à risque dans les gratifications avec les substances, mais que, nonobstant, chaque fois qu'il y a gratification, à ce moment-là, on est à risque. Et la différence individuelle, c'est que pour revenir au sport, les gens qui disent, bah, vraiment, moi... Alors, par rapport, effectivement, à la question, mais pourtant, dans le sport, on peut souffrir. Alors, après, on peut souffrir à un moment donné pour anticiper... je prends l'exemple des substances. Beaucoup de personnes qui consomment des substances, y compris parmi les plus addictives, la toute première expérience, elle est parfois extrêmement positive et sans ambiguïté. Mais même parmi les gens qui deviennent dépendantes, il y en a un nombre non négligeable qui rapporte une expérience initiale aversive, négative. Nausées, vomissements, malaise, qui fait que, je dirais, en dehors de... Et qui fait qu'ils ne devraient pas répéter. Alors, qu'est-ce qu'ils font qu'ils répètent? C'est la contrainte sociale. Moi, la première fois, moi je suis bordelais, donc forcément le vin, c'est bon. La première fois que j'ai pris du vin, j'ai trouvé ça acide, enfin, mauvais. Mais je suis un homme. Donc je me suis contraint. Je me suis senti contraint. Alors, je me tourne vers le sociologue, c'est pas de sa faute, hein, mais un peu. Je me suis senti contraint en tant que Bordelais, c'était pas possible de pas aimer le vin, donc il faut faire un minimum d'effort. Et là, surprise, finalement, en persévérant, en faisant d'efforts, en m'entraînant, bon, j'ai développé une tolérance, etc., ce qui m'a permis de profiter, et c'est vrai que c'est bon. Et maintenant, du coup, je suis à risque.
Une dernière question pour
oui,
enchaîner.
Une dernière question pour le professeur Dubé. Un petit commentaire d'abord sur on est tous égaux et puis il y a un gagnant. Il y a un contre-exemple qui est le marronnier des conférenciers. Il y a un sport qui est pratiqué dans les îles du Pacifique où le but, c'est de tomber à égalité. Et le match perdure des jours et des jours jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de gagnant. Mais c'est évidemment un contre-exemple infime. Juste, je rapproche ce que vous avez dit des propos d'un sociologue qui s'appelait Yves Lebon, qui s'occupait pas mal de sport, et qui disait que le sport était une métaphore, un peu comme vous, des principes moraux de la société. Lui, il voyait le progrès infini. Et il disait que chaque société a besoin d'une métaphore. Le Moyen-Âge avait ses suppliciés, en disant, voilà, il a fait quelque chose de mal, on lui casse tous les membres avec une barre de fer, et ça prouve que c'était vraiment mal. Et ça rentre bien dans l'esprit des gens, beaucoup mieux que n'importe quel discours. Et que le sport est porteur de ces messages très très forts. Et je suis entièrement d'accord avec vous du message qu'il porte. La question que je vous pose, c'est, ça ne marche que parce que c'est sacré. Ça ne marche que parce que c'est magique et irrationnel. On ne peut pas désacraliser. Je suis un combattant désespéré de la désacralisation, notamment par rapport à ce que vous dites, les conduites déviantes, etc. J'aimerais qu'on ait une approche extrêmement rationnelle et qu'on arrête de faire des affaires de ce qui n'en sont pas, notamment sur le dopage. Mais je crois que c'est un combat désespéré, à mener, mais désespéré, parce que le sport fonctionne justement parce qu'il est porteur de cette sacralisation. Ou en tout cas, donnez-moi une recette pour désacraliser. Alors.
Oui, je crois qu'on pourrait... Bon, moi, je reste persuadé, contrairement à ce que vous disiez, que je sais bien qu'il y a de l'argent d'abord. C'est pas nouveau, on se raconte des histoires pour les petits-enfants. Mais je sais bien qu'il y a de l'argent, je sais bien qu'il y a des coûts. Mais si, quand je regarde ou quand je joue, bon, moi je fais partie du public d'André, je continue à, malgré les rhumatismes et toute connerie, à jouer au tennis. Chaque fois que je rentre sur le court, je crois que je vais gagner. Autrement, je rentre pas. Donc je rentre dans une fiction qui est que je vais gagner le match. Bon. Alors, évidemment, maintenant, ça ne m'atteint pas tellement de le perdre aussi souvent. Mais si je ne le croyais pas, je ne le ferais pas. Quand je regarde le match de rugby à la télé, je sais bien qu'il y a une grosse équipe et une petite. Mais quand même, si je ne croyais pas que... Je veux dire, il y a un aspect théâtre. C'est-à-dire que chaque fois, on se la rejoue. On se la refait. Ce qui fait que moi, je crois que... Le problème du sacré, c'est que c'est pas le supplice, contrairement à ce que disait, c'est pas le supplice, c'est la messe. C'est-à-dire que la messe, ça nous rappelle qu'on est tous les enfants de Dieu, qu'on a tous quelque chose de commun. Et le sport, ça nous rappelle qu'on est tous égaux et qu'on est tous inégaux en fonction d'un principe juste que notre mérite, et que l'économie fonctionne comme ça, et que la politique fonctionne comme ça, et que l'école fonctionne comme ça, et que le marché amoureux fonctionne comme ça. Sauf que dans toutes ces épreuves, c'est le bordel, c'est pas clair. Tandis que là, 80 minutes, 90 minutes, un arbitre, des remplaçants, une pelouse, et on change de côté pour que le vent n'intervienne pas. C'est incroyable. Tu vois, je veux dire que c'est ça qui fait que ça joue. Alors, ce que je crois qu'on pourrait faire, c'est que non, cette magie, elle est dans le plaisir de le faire, le sport. Puisque chaque fois, je vais sauver mon âme, en fait, je veux dire, de certaine façon. Chaque fois, je renais, je recommence, j'ai oublié ma dernière défaite, etc., etc. Bon. Et puis, il y a quand même de la fraternité, c'est vrai aussi. On est quand même tous égaux, même si on se hiérarchise, on est copains, bon. Donc, tout ça, ça se joue. Je crois simplement que pour un tas de choses, on pourrait désacraliser, c'est-à-dire faire l'effort de dire, bien sûr, enfin, moi, c'est comme ça que je vois un peu les choses, de dire... Bien sûr, on y croit, mais ne soyons pas dupes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Au fond, la question que posait André Rox, c'est une vieille question, c'est celle de la sagesse. Il y a un livre célèbre qui dit « Est-ce que les Grecs croyaient à leur Dieu ?» Eh bien, la réponse est que, au fond, ils n'y croyaient pas tellement, mais comme ils étaient obligés d'y croire, ils y croyaient. Mais en fait, ils n'y croyaient pas vraiment. Et moi, je trouve que ça serait bien que, tu vois, on y croit, mais on ne soit pas con. Voilà. On n'y croit pas vraiment. On sache, etc. Et là-dessus, il y aurait d'ailleurs peut-être à calmer cette espèce d'hypertrophie du commentaire qui... Parce que c'est un jeu qui se joue avec les joueurs, l'arbitre et le commentateur maintenant, c'est évident. Et que là, il y aurait peut-être à calmer le jeu. Mais en même temps, dans une société démocratique, il faut bien qu'on se représente. Et je crois que le sport, c'est ce qui nous permet de nous remettre chaque fois dans cette espèce de jeu. Ce qui est scandaleux, c'est l'excès de sacré. L'excès de sacré, c'est quand on dit c'était la RDA qui dopait les types parce que c'était une guerre, c'était devenu une guerre. C'est, je sais pas, quand je vois, j'y connais rien, mais l'entraîneur de Manodou qui est si musclé, on a quand même le sentiment que c'est quand même du sadisme bizarre. En fait, ouais, je veux dire, ça, on pourrait quand même le neutraliser d'une certaine façon, et puis faire que les médecins, le droit du travail, le droit, tout simplement, entrent dans ce truc-là. Mais évidemment, le sacré résiste toujours à ce genre d'affaires. Mais voilà, on peut croire modérément. C'est comme le vin, quoi. Voilà, je propose que l'on ait un rapport du type rapport au grand cru. Voilà.
Merci à tous pour cette session. Merci aux conférenciers.